crois que la montagne peut aussi réellement être un espace de liberté.
Oui, peut-être qu'effectivement, la montagne a ce quelque chose d'utopique, d'irréductiblement utopique.
En fait, de toute façon, en montagne, plus tu montes, moins il y a de femmes, moins il y a de pauvres.
Moi, c'est pas la montagne des gens qui se chronomètrent pour faire des sommets ou pour raconter des trucs incroyables.
Viens, viens sur la montagne, là où il fait si bon.
Je suis avec Hortense Bellhôte, autrice, comédienne et performeuse qui vient de présenter un spectacle Et la marmotte à la salle des fêtes de La Roche-Saint-Secret. Une conférence spectaculaire proposée par la Comédie itinérante de Valence et l'association culturelle La Roche des Arts. Bonjour Hortense.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Radio-là ce soir. Alors, comment parler de la montagne quand on est parisienne, avec des origines montagnardes? Je crois que tu as répondu par l'art, par la création, par l'humour, par la connaissance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler du relief des sommets de la montagne dans cette conférence spectaculaire?
Cette conférence spectaculaire, historiquement, c'était une commande du Centre chorégraphique de Grenoble, et qui était lié à tout un projet qu'il faisait autour d'une colonie de vacances avec des enfants dans la montagne, et qui devait être à la fois donc montagnarde et artistique, et ils m'ont invité à participer à ça. Et dans le cadre de tous ces projets, ils m'ont proposé de produire une conférence, et qui devait recouper à la fois les questions de la montagne et de pédagogie ou d'éducation populaire. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée un peu donc, d'allier ce que je pouvais connaître moi-même de la culture montagne par les origines de ma mère, qui sont donc pyrénéennes, et ce que j'ai découvert aussi de la culture montagne à Grenoble, avec toute sa dimension notamment sociologique, qui est extrêmement vive, en fait, dans des régions comme Grenoble, qui recoupe à la fois des questions d'urbanisme, de grosses villes et de montagne, de nature, etc. Et en même temps, toute la question de la pédagogie, et de l'éducation, avec cette question de pourquoi un petit peu partout on a quand même ce fantasme de amener les enfants aux montagnes, ce serait genre super, super pour eux ou super pour nous. Enfin, en tout cas, il y a le côté utopie de la montagne, comme si la montagne représentait un endroit où les barrières sociales sont abolies, où tout est possible et où on peut tout réinventer. Et ce qui est très désirable, hein, et ce qui est aussi un petit peu le fantasme qu'on a de l'école, enfin, ou en tout cas de l'éducation et de la pédagogie en règle générale. Et donc c'est vrai que tout d'un coup, école et montagne, ça collait bien. Et donc j'ai essayé de faire toute une conférence qui tourne autour de ça. Des questions, donc avec une forte prédominance, on va dire, pédagogique et sociologique. Ce qui n'est pas mon terrain premier, moi je suis plutôt historienne de l'art, mais là il y a vraiment une réflexion sur l'apprentissage et le fait de grandir, de découvrir, et le parcours global des êtres humains. Mmh. Voilà.
Afin que l'étoile ne se craquelle pas avec le temps, c'est là qu'elle m'est apparue, me regardant avec ses petits yeux ronds accusateurs. Oui, elle était là, la marmotte. Et elle me dit... Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien juste qu'on prenne 5 minutes pour se demander ce qu'on vient de voir, là. Voilà. On se connaît pas, c'est un peu comme ça, abrupt, je suis désolée. Hein. C'est un spectacle, mais c'est un peu une conf, parce que moi, d'origine, je suis prof. Donc, c'est vrai que j'aime bien ces moments-là qu'on prend. Donc, c'est parti. Suivons-la. Jour 1. Marche d'approche. Machine à fumer.
Un mot sur le dispositif, c'est à la fois une conférence, enfin, ça fait appel à un corpus bien étayé, et en même temps c'est un spectacle, parce que il y a beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, enfin, c'est joué de ta part. C'est cette idée de... Voilà, il y a toute une autre série de conférences spectaculaires, donc, que tu proposes, notamment autour du football féminin ou de la Révolution française. Qu'est-ce que permet ce recours au spectacle?
Eh ben, cette forme, moi, elle est venue d'un goût personnel et de mes formations, qui sont que j'ai eu une formation d'historienne de l'art et de comédienne simultanément. Et dès le début, j'ai eu envie de faire les deux en même temps. J'ai pas toujours pu. Et maintenant que je peux, donc je ne me prive pas. d'où la prolifération de toutes ces conférences spectaculaires, mais qui pourraient s'appeler avec d'autres noms. Et que pour moi, le spectacle et l'éducation ont quelque chose de très commun, surtout moi en plus, où je mets en jeu des questions culturelles et qui sont sur des choses de qu'est-ce qui nous rassemble, quelles sont les histoires qu'on se raconte, les histoires au sens fictionnel du terme et aussi au sens historique du cours d'histoire, mais aussi ce qui est proprement de la culture en fait. J'ai l'impression, les histoires avec lesquelles on grandit, les récits qui nous façonnent et qui peuvent être grandioses, qui peuvent être intimes ou qui peuvent être de la pop culture. Et mon idée, c'est de mettre en jeu un petit peu ces différents niveaux de récits, d'accepter qu'ils nous composent tous, qu'on le veuille ou non, et de voir qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut arriver à faire sens là-dedans, s'émanciper aussi là-dedans. L'idée étant de faire aussi une histoire critique de ce qui pourrait être considéré comme norme, ou de nos préjugés, ou nos présupposés sur un grand domaine, donc un domaine comme la culture de la montagne, ou le foot, ou la Révolution française, des choses qu'on peut croire connaître ou croire ne pas connaître. Il y a un truc un petit peu où le fait de mélanger le haut et le bas, et de mélanger les récits, c'est aussi une manière de désacraliser tout ça. Et que tout le monde est apte à s'emparer du sujet, apte à la réflexion. Et c'est ça ce que j'aimerais mettre en mouvement. Là, justement, il y a un spectateur qui vient de me dire « Oh, ben, c'est chouette comment vous arrivez à mettre en mouvement le public ?» Le public ne bouge pas. On peut rassurer les auditeurs, je fais bouger personne. Mais l'idée, je trouve ça super que des gens aient une sensation de mise en mouvement intérieure, à la fois intellectuel, mais peut-être aussi émotionnel. Et c'est un peu ça l'enjeu, moi, de ces formes hybrides. Oui.
L'homme face à la mer de nuages. Il est hyper connu, ce tableau aussi. Mais c'est bizarre, je me dis qu'en fait, on n'a jamais vu ce tableau avec une femme face à la mer de nuages. Alors que c'est agréable quand même comme sensation. Alors on se dit, c'est parce que peut-être en 1918, elle faisait pas de montagne les femmes. Et en fait, moi je sais que si. Claude Cogan, fondatrice du premier club alpin français féminin et des premières expéditions entièrement féminines. Malheureusement, le plus dur reste à faire.
C'est aussi une histoire alternative, en tout cas dans le cadre de la montagne, de personnes oubliées ou exclues. C'est l'occasion de parler de ces personnes et de sortir de l'histoire un petit peu dominante autour de ces thématiques que l'on connaît tous.
Oui, la question du récit de montagne, moi c'est de là dont je suis partie pour cette conférence sur la montagne. Peut-être parce que je suis parisienne et que une parisienne de naissance, en tout cas, et donc que la montagne elle est un peu loin, donc forcément elle existe par le récit ou par l'image ou en tout cas par une sorte d'éloignement. La conférence commence par un fond d'écran d'ordinateur avec un paysage de montagne, et donc on part du plus loin, on va dire, du point de vue de la montagne réelle. Et c'est vrai que j'ai toujours été, moi, pas mal blessée par ce discours hégémonique sur la montagne, qui est un discours d'alpiniste, enfin, ou en tout cas, cette espèce de récit de montagne qui est calqué sur un récit assez martial, en fait, d'explorateurs, d'aventuriers, très masculins, très blancs, très aisés aussi dans l'enjeu même du sport de loisir ou de je ne sais quoi. Et c'est là où, moi, avec ma légitimité d'être descendante des Pyrénées, disons, je me suis dit, ben merde, quand même, moi, c'est pas cette montagne que je connais. Moi, c'est pas la montagne des gens qui se chronomètrent pour faire des sommets ou pour raconter des trucs incroyables. Moi, j'avais une vision de la montagne beaucoup plus simple, qui était liée à la famille de ma mère, à tout ça. Et j'ai toujours milité, mais moi, des gamines. Dès que j'ai pu faire de la montagne en tong, j'en rigole dans la conf, mais j'en ai fait. Et même si, justement, ma mère ou tout ça m'a toujours dit personne ne fait de la montagne en tong. Et j'ai toujours dit, si, les Sherpas au Népal, ils font de la montagne en tong, en fait, et ça dérange personne.
Donc, qu'on arrête un moment de dire comment il faut se comporter en montagne. Et c'est en ça que je crois que la montagne peut aussi réellement être un espace de liberté. Moi, je crois à ça, et je sais que ça l'a été pour moi dans mon enfance. Le fait d'avoir des vacances dans les Pyrénées, je sais que ça a été un lieu d'exploration de moi-même énorme. Donc je crois à ça, mais je crois aussi qu'on a un peu fermé le discours de la montagne, et le but dans cette conf, c'était d'aller chercher tous les discours de montagne qu'on n'entend pas. Et donc ça va du récit de la marmotte, d'où le titre, et la marmotte. Et la marmotte, qu'est-ce qu'elle en dit de la montagne ? Et puis ça passe par les vrais gens qui habitent à la montagne. En fait, on ne les entend pas non plus. Et eux, en règle générale, ils en ont un peu rien à foutre de l'alpinisme, pour être sincère. Enfin, l'alpinisme, c'est quand même un truc créé par les citadins. Donc qu'on arrête de nous raconter que c'est une pureté du récit. Ou, par exemple, les migrants qui passent des cols de frontières et qui, eux, passent des cols en plein hiver en basket, en fait. Leur récit de montagne, ils sont dingues à entendre. Et il faut qu'on les entende.
Ce qui est dit à la fin du spectacle, c'est qu'il y a un atelier qui a été animé avec des personnes réfugiées sur leur... des personnes exilées, en fait, qui parlaient de leur histoire de montagne que tu as eue, que tu utilises dans le spectacle.
Ouais, ça c'était en fait pendant toute la création du spectacle, j'ai vachement partagé des trucs avec des groupes, partagé mes étapes de travail et des groupes assez différents, et assez différents en tout cas de mon expérience. Et l'idée était que même dans la création de cette conférence, au-delà de toutes les infos que je pouvais trouver dans des bouquins ou dans des podcasts ou je ne sais quoi, que je partage aussi avec des gens qui avaient des visions de la montagne différentes. Donc par exemple, des jeunes gens de 20 ans qui sont nés en station, ce qui n'est pas du tout mon cas, donc ça c'était intéressant aussi de savoir. Ou par exemple, des jeunes réfugiés, pour la plupart venus d'Italie à la France, et donc qui ont atterri dans les régions de Grenoble ou quoi. Et notamment un qui a vraiment fait ce fameux passage du col de l'échelle, et qui est une des randonnées les plus dures du monde sur l'échelle des randonnées, je pense, et dont personne ne parle. Les autres, ils n'avaient pas fait vraiment cette randonnée-là, mais c'était chouette d'utiliser aussi la montagne comme un motif universel. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a ce qu'on considère comme montagne. En fait, sur tous les continents, il y a des montagnes. Et donc, on a tous parlé des montagnes de chez nous. Et soit certains qui venaient de régions montagneuses, et donc pour qui la montagne c'était un endroit génial de liberté, Omar qui venait d'Afghanistan, et pour qui lui c'était vraiment l'endroit où il allait courir avec son frère, etc. Et puis d'autres qui venaient de plaine, et pour qui la montagne c'était l'endroit qui fait peur par excellence, l'endroit de toutes les angoisses, et un endroit très hostile à la vie de l'être humain. Et c'était un peu comme le foot, justement, ça me sert aussi de point d'entrée assez universel, comme point, non pas comme un référent culturel, mais juste comme un terrain de jeu, enfin comme un terrain de réflexion politique et culturelle.
Alors, dans la montagne, il y a des gens qui passent, puis il y a aussi des gens qui vivent, comme mon arrière-grand-mère. Quand tu fais l'histoire d'une montagne, forcément, tu es obligé de faire un petit peu l'histoire des gens aussi. Hein. Et ça, c'est un géographe du 19e siècle, Élisée Reclus, qui a le premier théorisé cette question-là, c'est-à-dire comment tu passes d'une géographie physique à une géographie humaine, et comment le lieu peut avoir de l'influence sur la vie des gens, tout simplement. Bon, voilà, je pense que ça ne sert à rien de se mentir, il y a un moment, il faut être honnête. Moi, par exemple, je ne vous mens pas. J'adore faire de la montagne en tongs. Voilà. Chacun ses...
Ici, à la Roche un secret, on est au début du parc des Baronnies provençales, donc c'est pas de la haute montagne dont tu parles plutôt dans le spectacle, mais on va dire de la moyenne montagne. Pour autant, ces histoires de montagne, de gens du quotidien, moi, ce que j'entends dans le spectacle aussi, c'est qu'elles sont importantes et qu'il serait peut-être temps de se les réapproprier familialement ou au niveau des références locales qu'on peut entendre, ou des histoires, des légendes par exemple, je sais pas.
Oh bah là, juste là, les gens avec qui j'ai pu discuter, donc je demandais en termes de mètres, là on doit être peut-être à 300, voilà. Là-haut, il y en a qui venaient de 600, et puis la montagne à côté, elle est quand même à 1002, 1003.
La montagne de la Lance, ouais.
Voilà, 1003, donc on est quand même dans de la vraie montagne, mais eh ben, on a quand même parlé d'histoire de loup. Moi, bon, je ne savais pas, mais donc c'est quand même un vrai sujet dans le coin, où effectivement, les montagnes sont pas loin. Et effectivement, la montagne n'a pas besoin d'être très haute pour être une montagne, en fait, pour être un territoire. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis venue en Ardèche, par exemple, j'ai été hyper surprise par le paysage et la géographie et le temps qu'on mettait pour aller d'un point à un autre. Et justement, je me disais, j'ai dit, mais même en montagne, on va plus vite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la circonvolution qui est quand même, même si c'est pas très haut, qui est très proche de ces milieux un petit peu accidentés où en fait, il faut être sur un chemin, comme un chemin... un chemin coutumier kanak, c'est-à-dire comme un chemin où socialement, il faut apprendre des étapes, il faut connaître. Et Drôme, Ardèche, c'est quand même des endroits où il faut connaître et le territoire joue sur la vie des gens.
Je me demandais quel a été au niveau du processus de recherche pour la conférence sur le... Voilà, tu t'es basé sur un corpus et je me demandais s'il y a des personnes ou des histoires qui t'ont particulièrement marqué ou inspiré. Dans le spectacle, il y a notamment Élisée Reclus qui est citée.
Eh bien, clairement, oui. Bah, tu vois, pendant que tu posais la question, je me disais peut-être Élisée Reclus. Oui, parce que moi, Élisée Reclus, je l'avais croisée un peu comme une figure un petit peu historique du 19e siècle. Et puis, parce qu'il vient du sud-ouest et que, du coup, dans le sud-ouest, on le croise un peu. Et en fait, c'est en discutant pas mal avec des géographes et des sociologues, et pas mal dans la géographie un petit peu critique, c'est vraiment une figure hyper importante. Et j'aime beaucoup ce passage que Élisée Reclus fait, qu'il est géographe et anarchiste. Et donc, il fait cette espèce de continuité entre la géographie, ce qui ne s'appelle pas encore à l'époque la sociologie, et la politique. Et comment on peut être dans une pensée de la nature et une pensée de l'humain qui soit en même temps. Et c'est vrai que les géographes, les jeunes géographes aujourd'hui le connaissent très bien, mais je crois qu'il n'a pas assez dépassé le champ de... Enfin, pour le grand public, je pense que c'est vraiment un grand penseur français qu'il faut peut-être qu'on se réapproprie aussi. Et moi, j'en ai profité pour lire un petit peu grâce à cette conférence, mais on mériterait de le relire, à mon avis. Et pour nos questions aujourd'hui, ça nous aide à comprendre beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis, dans les politiques territoriales, mais pas que, il va vraiment bien au-delà. Et ouais, ça, c'est une des histoires qui m'a touchée. Et je pense qu'il y a un petit problème aussi, quand même, de source. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur toutes ces questions de montagne, il y a pas mal de bouquins éparses, donc on peut trouver des bouquins sur chaque sujet que j'aborde, mais il y a des petits angles morts encore, j'ai l'impression, et notamment, j'étais tombée sur une série, je crois Fabrique de l'Histoire, ou je ne sais plus quoi, France Culture, sur l'histoire des sports d'hiver en France, et j'avais entendu en fait la réalisatrice de cette série dire que quand ils ont choisi le sujet, ils ont pensé que c'était un truc qui était assez déjà, qu'il suffisait d'aller regarder 3-4 bouquins et c'était bon. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas. Et donc, cette émission France Culture est devenue un petit peu une référence dans la mise en lien de toutes ces sources. Et quand même, sur la question du plan neige, de l'histoire des sports d'hiver, etc., qui touche des questions économiques, politiques et écologiques qui sont énormes aujourd'hui, il y a un petit manque de sources. Donc c'est bien de le pointer aussi.
En termes de personnages qui restent, enfin qui me restent en tout cas après le spectacle, il y a aussi cette... Alors j'ai oublié son nom, mais cette femme américaine qui a permis à des esclaves de quitter par la montagne, en fait de s'évader par la montagne. Comment est-ce que tu as entendu parler de cette histoire?
Alors oui, c'est Harriet Tubman, qui est une esclave qui s'est elle-même auto-affranchie, enfin qui s'est échappée des plantations au 19e siècle aux États-Unis, et qui ensuite, à travers les collines de Pennsylvanie, qui a réussi à faire passer tout un tas d'esclaves entre les pays du Sud et les pays du Nord.
Et elle, je ne sais plus comment je suis tombée sur elle, je crois par, justement cette citation du « keep going ». Et elle, elle a une citation, donc « keep going, si tu veux goûter à la liberté, continue d'avancer ». La citation est plus longue, et justement, c'est vraiment un truc de « si tu entends les chiens derrière toi, si tu vois les torches dans la nuit, si tout ça, continue d'avancer. Si tu entends les cris, tu continues d'avancer, tu cours ». Et c'est bouleversant juste de la lire aujourd'hui. Et en fait, je travaille un peu sur la culture populaire aussi. Quand on tape Harriet Tubman sur Google, Google Images, ou Harriet Tubman citation, on tombe sur plein de mises en images où parfois on a des citations d'Harriet Tubman avec juste un petit mec avec un sac à dos de rando. Et je trouvais ça, ce décalage énorme que cette femme qui est anti-esclavagiste, après autrice, afro-féministe, etc. Enfin, elle est vraiment, elle est dingue, elle, dans sa vie. Mais elle est plus connue aux États-Unis, en France, on ne la connaît pas. Et qu'elle soit tout d'un coup un espèce de modèle de l'ado randonneur. Et ça m'intéressait, ce petit décalage-là, aussi sur... sans doute sur comment il y a certains messages qui peuvent... être délocalisé ou dépasser certaines frontières, comment ça peut résonner en tout cas. Et cette idée de la montagne comme espace de fuite et de survie, et parfois de survie vitale, de survie politique, j'en parle au moment où je parle justement des esclaves marrons sur l'île de la Réunion, et que heureusement qu'il y a des montagnes dans certains endroits. La forêt et la montagne, c'est quand même des endroits qui ont permis de sauver des gens.
C'est là où on prend le maquis, on peut se cacher. Enfin, l'histoire l'a beaucoup montré. Ouais.
Ouais, et je crois que c'est ça aussi. Et c'est en ça que je me dis, mais la montagne, ça a quand même cette chose-là, que partout dans le monde, ça a été des endroits où on peut inverser le rapport de force. Et je me suis dit, c'est pas pour rien qu'Élisée Reclus, il fait ça. Enfin, il pense la montagne. C'est aussi parce que la montagne, c'est un endroit où on peut penser le politique. Et tout d'un coup, quand j'ai vu que Bourdieu, sa pensée de la sociologie, il l'a créée aussi, donc entre deux bouquins, qui est Au pied des Pyrénées, d'où il est originaire, dans le Béarn, et après c'est dans les montagnes de Kabylie. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas un hasard non plus si la sociologie s'invente dans la montagne. C'est peut-être quand même que politiquement, les montagnes, par ce relief accidenté, par tout ça, c'est quand même le bastion de quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me plaît, et c'est en ça que je me dis que oui, peut-être qu'effectivement la montagne a ce quelque chose d'utopique, d'irréductiblement utopique, et d'irréductiblement non fasciste, quoi. Enfin, c'est une bulle de quelque chose.
Peut-être un petit mot pour terminer sur un autre axe de ton travail, c'est la websérie Arte « Merci de ne pas toucher », consacrée à l'histoire de l'art. Pour les personnes qui ne connaissent pas, autant dire quelques mots, c'est des pastilles vidéo avec un regard décalé sur l'histoire de l'art, une grille de lecture féministe, tu me corrigeras si je dis des bêtises, c'est très drôle et bien réalisé, je me demandais s'il y avait un lien entre ce travail sur l'histoire de l'art et ces conférences spectaculaires que tu proposes, notamment sur le football féminin ou la montagne.
Cette websérie Arte, en fait, c'est une adaptation d'une conférence spectaculaire qui était sur l'érotisme dans l'art classique, où j'étais dans le même dispositif avec un vidéo proche et où je racontais un peu ma vie et des trucs devant. Et mon champ de recherche, moi, au départ, c'est l'histoire de l'art et la peinture classique, 15e, 19e siècle. Mais après, quand j'ai enseigné l'histoire de l'art un peu de manière générale, j'ai dû enseigner tout un tas d'autres trucs, et notamment l'histoire du 20e siècle. Et l'histoire des représentations, globalement, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas particulièrement une passion pour la vieille peinture. Ce qui me plaît, c'est comment tout ça façonne nos cultures et nos esprits et nos hiérarchies patrimoniales et culturelles. Et donc l'histoire du XXe siècle, ou l'histoire plus récente en tout cas, me plaise tout autant. Et c'est ce qui fait que j'ai pas trop de problèmes à passer de l'histoire ancienne à l'histoire plus contemporaine, l'histoire des années 60, 70. Là, dans la montagne, je fais des petites incursions dans le passé. Et je trouve ça nécessaire aussi pour remettre les choses dans une durée et dans un temps long. On commence avec moins 5000 ans, moins 3000 avant Jésus-Christ, et puis on va jusqu'à maintenant.
Avec des incursions dans l'histoire de l'art aussi, avec Hokusai notamment.
Et dans l'histoire de l'art, je montre quelques quelques œuvres qui, pour moi, ont façonné aussi notre rapport à la montagne. Et donc, par exemple, donc, Okuzai, la vue du mont Fuji, la grande vague, qui est peut-être le truc le plus connu. En fait, c'est sans doute l'image de montagne, à mon avis, la plus connue du monde. Mais, et donc, j'avais envie de passer par là. Mais aussi Caspar David Friedrich, L'homme au-dessus de la mer de nuages, qui est vraiment le poncif aussi du citadin qui domine la nature et de tout un tas de visions romantiques et européennes du rapport à la nature. Et que la nature ne serait qu'une projection de l'esprit humain, et ce qui nous a posé quand même beaucoup de problèmes et qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes en termes écologiques et de rapport des sociétés au vivant. Et puis, et je parle aussi des petites incursions avec Napoléon. Glorieux au sommet d'une montagne et sur son cheval cabré, et ça qui participe beaucoup d'une culture montagne beaucoup plus pop, qui serait la culture de la gagne, la culture du sommet, la culture de la conquête, qui est quand même, faut qu'on revienne dessus, quoi. À Grenoble, ce qu'une sociologue m'avait dit, c'est en fait, de toute façon, en montagne, plus tu montes, moins il y a de femmes, moins il y a de pauvres, moins il y a de blancs. Et c'est vrai que ça résumait bien un petit peu tout l'enjeu aussi de cette conférence, qui était aussi d'aller voir tous les récits des gens qu'on a lâchés en route, en tout cas culturellement.
Peut-être une dernière question à titre personnel. Est-ce que tu as une montagne préférée ou une colline? Ça peut être la butte aux Cailles ou la butte Montmartre également.
Ouais, en vrai, moi, de naissance, je suis hyper parisienne, donc c'est vrai que des montagnes, on est... Mais non, si quand même, c'est les montagnes de chez ma maman dans les Pyrénées. Moi, c'est le cirque de Troumouze, ma passion. Voilà. Mais j'aime la montagne globalement. Je me suis rendu compte, par exemple, j'ai commencé à accepter, j'ai 36 ans, je viens d'accepter que la mer, j'en avais un peu rien à foutre. Voilà. Je préfère la montagne. Voilà mon coming out.
Merci beaucoup, Hortense Bellotte.
Ben merci à vous.
And now, what do we do? Let's keep going. What do you mean? Go, just go. Wouh! Je spoile pas.
Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma mère. Je connais le...